France Inter, le 18-20.
C'est la disparition des oiseaux qui a alerté au moins un instant. T'as vu, il y a de moins en moins d'oiseaux. Certaines alouettes, tourterelles, perdrix, fauvettes et bientôt ce sera, t'as vu, on n'entend rien. On n'entend plus le printemps arriver. Mais c'est pas tout. Le dernier rhinocéros blanc du Kenya est mort. Le stock de poissons est en chute libre. Et puis les insectes, les abeilles, l'état des sols, des forêts. Ce sont nos écosystèmes qui disparaissent parce qu'on a trop tiré sur la corde et qu'on continue. Curieusement, tous ces rapports sur la biodiversité, donc, qui s'accumulent pour nous mettre en garde, sont encore moins regardés que ceux du réchauffement climatique, ou pas beaucoup plus d'ailleurs. Un réchauffement climatique, soit dit en passant, qu'on a mis déjà tellement de temps à prendre réellement au sérieux. Cette sixième extinction de masse, la première causée par nous, on ne la voit pas ou pas encore. Et pourtant, culture extensive et intensive, monoculture, les herbicides, les engrais de synthèse qui vont avec, la surpêche. Et parmi les questions qu'on va se poser ce soir, eh bien, il y a, peut-on revenir en arrière? Peut-on modifier en profondeur nos modes de production? Sommes-nous condamnés à des drones pollinisateurs comme il en existe déjà? On en parle ce soir.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
C'est Pierre qui commence ce soir. Bonsoir Pierre et soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir. Déjà par rapport au fait que vous indiquez qu'il y a de moins en moins d'insectes, il y a, pour les sceptiques, il y a vraiment un test à faire, c'est quand on prend la route. Moi j'ai 58 ans et quand j'étais jeune et qu'on partait en vacances, il y avait des insectes sur le pare-brise, on était obligé de nettoyer à chaque fois. Maintenant vous pouvez presque faire 500 km sans avoir un seul insecte qui s'écrase sur votre pare-brise. Enfin bon, c'est pas ma question. Ma question, est-ce qu'on peut dater le moment de du début de la prise de conscience de l'extinction des espèces qui soit dû directement à l'homme, parce qu'il y a déjà eu dans le passé quelques extinctions des espèces, donc je voulais savoir si vos spécialistes pouvaient le dater, et puis peut-être aussi se poser la question sur la croissance, à force de croître, on meurt, quoi.
Merci beaucoup Pierre pour cette entrée en matière, et pour vous répondre, pour discuter avec nous pendant toute cette soirée, Bruno David est là, bonsoir.
Bonsoir.
Je vous voyais déjà, Monsieur David, approuver ce que disait Pierre, donc c'est à vous que reviendra la première réponse. Vous êtes président du Muséum d'Histoire Naturelle. Bonsoir François Lasserre, vous êtes naturaliste, hop c'est par ici, autant pour moi, vous êtes naturaliste, vous êtes entomologiste, vous êtes vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement, bonjour. Bonsoir. Sébastien Moncor, vous êtes directeur de l'Union International pour la conservation de la nature, et Sandy Dauphin, il a également spécialiste environnement de France Inter. C'était pour vous, Bruno David. D'abord, effectivement, vous approuviez, oui, c'est vrai, quand on prend la route, il y a moins d'insectes. C'est bien une manière de nous en rendre compte tous, en fait, qu'il y en a de moins en moins.
Oui, ça c'est certain. Mais je voulais rebondir sur l'autre aspect un petit peu de la question. J'ai une formation de paléontologue, j'ai fait pas mal de paléontologie, et je me suis beaucoup intéressé aux crises anciennes. Puisqu'on parle de la sixième crise aujourd'hui, ça sous-entend qu'il y en a eu cinq autres avant. Mm-hmm. Effectivement, il y en a eu cinq autres avant. Et ce que je souhaitais dire, c'est qu'est-ce que nous ont enseigné ces crises anciennes? Si on les regarde, finalement, quel message elles nous donnent? Elles nous donnent un message comme quoi ces crises n'ont pas été des hécatombes, elles n'ont pas fait de mort. Et c'est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui avec les insectes qui disparaissent, avec les oiseaux qui sont de moins en moins nombreux.
Les précédentes extinctions, les précédentes disparitions n'ont pas fait de mort?
Non, elles n'ont pas fait de mort. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas vu des cimetières de dinosaures, par exemple. On aurait des couches fossiles pleines de squelettes de dinosaures.
Mais rassurez-moi, ils sont morts.
Ils sont morts. Quoique vous aurez un tyrannosaure au muséum cet été, mais il sera mort. Je vous garantis qu'il sera bien mort. Non, elles n'ont pas fait de mort, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une diminution du succès reproducteur, il y a eu de moins en moins d'individus d'une génération à l'autre, jusqu'à ce que les espèces finissent par s'éteindre. Mmh. Et on n'a pas vu de paquets d'ossements de dinosaures, et en ce moment, par exemple, on parle de la diminution drastique du nombre des oiseaux, mais mes amis répondront aussi, avec cette diminution drastique, on ne voit pas des oiseaux morts le long des chemins, le long des routes, dans les rues, au pied des arbres. Il y a simplement de moins en moins d'oiseaux, donc c'est vraiment une diminution de leur succès de reproduction d'une génération N à la génération N plus 1. Ils pondent moins 2, il y a moins de succès à l'envol, etc. etc. Et ça, c'est très pernicieux, parce que c'est beaucoup plus difficile de s'en rendre compte. Il n'y a pas nécessairement de disparition d'espèces, mais j'attire l'attention pour dire que c'est exactement comme cela qu'ont fonctionné les crises anciennes.
Alors justement, et pour revenir à la question de Pierre, à quel moment on commence à se dire attention, danger, extinction?
Alors moi, je daterais ça volontiers, alors parce que je préside le muséum, mais je daterais ça volontiers de 1965 avec un livre majeur qui a été « Avant que nature meure », écrit par Jean Dorst, un de mes prédécesseurs au muséum, qui est un livre absolument prémonitoire, qui explique déjà toutes les atteintes que l'homme porte aux écosystèmes, mm-hmm. avant même qu'on parle d'écologie dans le grand public, hein, bien avant, hein, et qui explique en quoi tous ces écosystèmes sont en péril, comment les grands mammifères en Afrique sont en déclin, etc. etc. Mm-hmm. Ça a été écrit avant 1965, ça a été publié en 1965, et ça a été réédité depuis. Alors il y a juste, je dirais, un chapitre où Jean Dors s'est trompé vraiment, c'est le chapitre sur l'océan, et où il a dit « l'océan est tellement vaste, il y a tellement de poissons, là il n'y a pas de problème mm-hmm. ». Et finalement, il y en a quand même.
Sébastien Moncor, 1960, la première alerte, vous la situez là aussi. Ça donne une idée du temps qu'il nous faut pour réaliser ce genre de choses. Mais peut-être, comme le disait d'ailleurs à l'instant Bruno David, parce qu'on ne voit pas des oiseaux boum, tomber des fils subitement et s'écraser par terre. Soyons cyniques, mais c'est comme ça que ça marche parfois pour que ça fonctionne.
Oui, alors du côté de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, effectivement, on publie régulièrement un document de référence qui s'appelle la liste rouge des espèces menacées. Donc, qui évalue le risque d'extinction des différentes espèces de la planète. Et la première liste rouge a été publiée en 1964. Donc, nous sommes concordants. Avant, effectivement, on avait de toute façon des disparitions d'espèces. On peut dater vraiment vraiment l'influence de l'homme sur l'environnement, je pense à partir de 1850, de la révolution industrielle, mais ça s'est clairement intensifié à partir des années 1950. Et donc c'est là où on est rentré vraiment dans une phase de déclin de plus en plus important, ce qui fait que les scientifiques qualifient la période actuelle d'anthropocène, dans le sens où c'est les activités humaines qui sont actuellement le principal moteur de l'évolution de la vie sur Terre.
François Lasserre, pour finir ce tour de table avec la première question.
Oui, en fait, l'homme a toujours été d'une certaine façon belliqueux avec son environnement. Depuis, l'archéologie nous montre que les mammifères de plus de 40 ou 45 kilos de mémoire disparaissent en quelques décennies après l'arrivée d'Homo sapiens, où que ce soit sur Terre depuis toujours. Élisée Reclus, qui est né en 1830, un géographe, avait écrit des choses de son vivant sur l'impact de l'homme. En fait, il y a des choses d'ailleurs de ce monsieur qui pourraient être un édito du Monde demain ou de n'importe quel canard, qui serait tout à fait actuel. En fait, ça fait assez longtemps. Alors évidemment, il était seul dans le désert, mais l'homme n'aime pas trop la concurrence, alors particulièrement Homo sapiens, c'est celui qu'on connaît le mieux, et il a toujours eu un impact plutôt négatif. Alors ça s'accélère parce qu'on est très nombreux et qu'on a des outils de transformation de l'environnement absolument incroyablement efficaces. Mais le mythe du bon sauvage qui aimait beaucoup les animaux, etc., on avait surtout un peu peur, il y avait beaucoup d'animisme, etc. Mais voilà, on a toujours été un peu violent avec notre environnement.
Avant qu'on retourne au standard, je peux poser cette question, Sébastien Moncor, à quoi ça sert un oiseau ? Parce qu'on parlera des insectes, probablement tout à l'heure, on verra quel peut être leur rôle. On a parlé des abeilles, quel pouvait être leur rôle pollinisateur extrêmement important. On parle de certains animaux pour l'agriculture. À quoi ça sert un oiseau ?
Ça sert pour qui ?
Ben, je sais pas, pour, justement, pour nous ? C'est ça la question. Est-ce que c'est... Allons-y en mettant les pieds dans le plat. Est-ce que c'est grave s'il n'y a plus d'hirondelles, s'il n'y a plus de perdrix, s'il n'y a plus de pinsons, à quoi ça, est-ce que c'est grave?
Alors, il faut voir, en fait, que le système vivant de la planète, en fait, fonctionne avec des interactions entre les différentes espèces. Donc, en ce moment, en fait, on joue un peu au Mikado. C'est-à-dire qu'on retire au fur et à mesure différentes tiges. Et il y a un moment, c'est pour revenir à la question de l'auditeur tout à l'heure, on atteint un point de rupture où vraiment le système s'effondre. Donc, l'oiseau n'a pas forcément d'utilité particulière. On a quand même une responsabilité morale et éthique sur le fait que c'est quand même une espèce qui est, comme nous, le fruit de l'évolution. Après, il est forcément intégré dans différentes chaînes alimentaires où il est prédaté, où lui-même participe à la régulation de certaines espèces d'insectes. Donc, c'est ce qu'on qualifie aujourd'hui pas forcément au niveau des espèces, mais en fait, les espèces sont un maillon essentiel du fonctionnement des milieux naturels et l'homme dépend étroitement de la qualité des milieux naturels. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les services écosystémiques, c'est-à-dire ces services rendu par le bon fonctionnement des écosystèmes pour le bien-être humain.
La raison pour laquelle je pose la question, Bruno David, c'est, on parlera peut-être du rhino blanc qui a disparu aussi au Kenya, c'est terriblement triste, mais effectivement, pour qu'on s'en rende compte, pour qu'on fasse quelque chose, qu'est-ce qu'il faut dire ? Est-ce que le simple fait de dire, il n'y a plus de rhinocéros blanc, en tout cas dans cette partie nord, est-ce que c'est vraiment très grave ?
Alors, ça dépend de l'importance qu'on y attache. Il y a à peu près 2 millions d'espèces vivantes sur la planète, en tout cas décrites. Il y en a sans doute plus, mais on en a décrit à peu près 2 millions. On peut dire, après tout, que des espèces disparaissent, c'est pas si grave que ça, et pour certaines
d'entre elles... Quelque chose de naturel, en fait. Voilà ce que je voyais.
Bien, de toute façon, il y a des espèces qui disparaissent et des espèces qui apparaissent, mais pas au même rythme qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que la disparition d'une espèce telle qu'elle se fait aujourd'hui est très rapide, et l'apparition d'une espèce, l'émergence d'une nouvelle espèce par différenciation génétique à partir d'un stock homogène au départ, ça prend plusieurs milliers d'années, dizaines de milliers d'années, voire centaines de milliers d'années en moyenne. Ça prend vraiment du temps. Ce que je voulais dire simplement, c'est que a-t-on le droit éthique de faire disparaître des espèces qui ont mis aussi longtemps que ça à nous parvenir ? L'histoire de la vie sur Terre, c'est 3800 millions d'années. Et j'aime bien prendre une comparaison avec la Tour Eiffel. Imaginons que l'origine de la vie, ça soit le champ de Mars, qu'aujourd'hui, on soit au sommet de l'antenne de la Tour Eiffel. 2000 ans, c'est-à-dire depuis Jésus-Christ, c'est une rayure d'ongle au sommet de l'antenne. Tout le reste, c'est ce qui a précédé. Donc ce qu'on est en train d'atteindre, c'est tout ce qui a précédé ça. C'est tout ce qui soutient ce qui vient avant ce sommet de l'antenne. Donc on n'a pas trop le droit de faire disparaître des espèces. Il y a une raison éthique. Et je vais aller plus loin dans la comparaison. Allez-y. Et là, je vais choquer tout le monde.
Allez-y, je vous en prie.
Je vais dire,
choquer.
C'est pas grave si on rase Notre-Dame. On peut reconstruire Notre-Dame, pratiquement à l'identique. Pas avec les mêmes pierres, bien sûr, mais pratiquement à l'identique. Si on fait disparaître une espèce, on ne la reconstruit pas. C'est fini.
Et on aura l'occasion d'y revenir. Vous vouliez juste intervenir avant qu'on retourne au standard, François Lasserre.
Alors, c'est un sujet vraiment profond que vous avez.
Allez-y.
Alors, est-ce qu'on a le temps de développer justement sur cette histoire de rôle? Parce que, effectivement, on me demande toujours. Alors, moi, je suis concerné. Enfin, je m'occupe plutôt des insectes. Quand on me demande à quoi sert un moustique ou à quoi sert, peu importe.
Je pense que vous me demandez pourquoi les moustiques, eux, ne disparaissent pas d'ailleurs. Ça nous arrangerait bien.
Alors, tous les moustiques ne nous piquent pas. On pourra y revenir. Certains individus nous embêtent, mais pas tous les moustiques. Et c'est aussi une de notre erreur. C'est une erreur absolument fondamentale. C'est de tous les mettre dans le même panier et de penser que tous les insectes nous embêtent. Et du coup, quand on entend que les insectes disparaissent, ça ne gêne personne puisqu'on a l'impression que tous les insectes nous embêtent. Mais quand on me demande à quoi sert un moustique, je repose la question parce qu'on va exiger presque d'un moustique qu'il ait un rôle très important pour l'environnement. Je peux vous répondre, il mange le phytoplancton, il empêche les mares de se fermer, il nourrit les larves de libellules dans le sol, il nourrit les hirondelles, etc. Mais tous ces rôles qu'on exige d'une larve de moustique, si je vous repose la question, et vous, à quoi servez-vous?
Oui.
D'un point de vue écologique, vous ne servez pas. Donc vous voyez que c'est déjà complètement biaisé. C'est-à-dire qu'on exige du non-humain, des animaux non-humains, c'est une façon un peu moderne de parler des autres animaux que nous, quelque chose d'incroyable qu'on ne s'impose pas à nous-mêmes. Et c'est quelque chose de très profond.
Mais c'est pas seulement l'idée de à quoi ça sert, c'est-à-dire est-ce qu'il peut y avoir une utilité, c'est aussi, donc si cette espèce disparaît, est-ce que c'est grave? C'est ça aussi qu'il y a derrière, en fait, et qui est compliqué à appréhender pour les gens parfois.
Alors, pour plein d'espèces, ce serait pas très grave, on n'en sait rien. Effectivement, il y a des espèces qui ont disparu, voilà, on vit très bien, vous êtes né sans le grand pingouin, par exemple, qui est mort en 1800, le dernier en 1844, de mémoire. Voilà, vous vous portez très bien, vous êtes né sans mammouth, etc. Il y a plein de bêtes, vous êtes né sans dodo et vous vous en portez très bien, on n'en sait rien. Ce qu'on sait depuis 150 ans, grâce à Darwin et ses compères et ses collègues, c'est qu'il n'y a aucun sens à tout ça et qu'on a tous autant de légitimité et qu'on est tous autant évolués les uns que les autres. Donc en fait, c'est une question éthique et philosophique très profonde. C'est-à-dire qu'on a mis 4 milliards d'années environ pour en arriver là. On a tous autant de légitimité à vivre sur Terre les uns que les autres. Et donc, c'est une question éthique et philosophique.
Est-ce que l'éthique, ça va suffire à convaincre les politiques? Parce que, justement, on focalise beaucoup, nous, sur, quand on parle du déclin de la biodiversité, les grands mammifères, parce que ce sont des espèces emblématiques. Mais est-ce qu'il ne faut pas plutôt insister justement sur tous ces animaux et ces insectes qui disparaissent dans le silence et qui ont vraiment, eux, le rôle le plus important, en fait, dans tous ces services écosystémiques?
Alors, ça dépend des interlocuteurs, c'est ce qui se passe. Alors, moi, je suis plutôt du côté pédagogie, éducation à l'environnement, dans l'OPI, à l'OPI. Et quand on fait de l'éducation à l'environnement, effectivement, on fait différentes manières, parce que tout le monde ne répond pas aux mêmes envies, aux mêmes désirs. Vous voyez, il y en a qui marchent avec la tête, il y en a qui marchent avec les émotions, etc. Donc, on est obligé de tout utiliser. Il y en a pour qui les rôles, ça fonctionne très bien. Ils disent, ah oui, c'est utile pour l'environnement, donc je vais m'en servir. Il y en a d'autres pour qui ça va pas du tout parler. Un rôle, c'est très technique, en fait, un rôle. À quoi il sert, à polliniser, etc. C'est très technique. En revanche, on peut aller sur quelque chose de beaucoup plus émotionnel.
Mais si vous dites aux gens, ben voilà, si on n'a plus d'insectes pollinisateurs, ben voilà, un tiers de ce qu'on mange, c'est grâce aux insectes pollinisateurs, peut-être que les gens comprennent aussi.
Alors,
est-ce que le message est assez simple, en fait? C'est ma question vis-à-vis du grand public.
Le message de dire, ils sont très importants?
Ben oui, pourquoi c'est important de lutter contre l'effondrement de la biodiversité?
Ben écoutez, ça ne fonctionne pas tellement.
Non.
Déjà. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a quand même des succès. Et surtout, En fait, ce qu'il faut quand même se rendre compte, c'est que ça fait 20 000 ans, qu'on lutte contre les insectes. Ils nous embêtent. En tout cas, les insectes qui mangent nos cultures. Et là, on voudrait que, en une décennie, l'Homo sapiens occidental, en tout cas, qui a vraiment fait une distinction entre lui et les autres animaux, d'un seul coup change de mentalité. En revanche, là, s'il y a une émission ce soir, il n'y a jamais eu d'émission comme ça dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais fait téléphone sonne sur la disparition de la biodiversité. C'est une première mondiale, disons, presque.
Wow, attendez. Et donc, subitement, je vois cette émission très différemment.
Pour voir le verre à moitié plein, c'est en train de changer. Malheureusement, il y a un paquet de non-humains qui vont en pâtir parce qu'il y a une certaine inertie, mais il y a quand même une prise de conscience énorme.
Bruno, David, vous vouliez intervenir et puis vite au standard dans un instant.
Oui, je voulais revenir sur ce que disait Sébastien Moncor tout à l'heure, mais j'aime bien prendre un exemple de nouveau avec la Tour Eiffel.
Allez-y.
Je veux dire, un écosystème, c'est un système de relations. La Tour Eiffel, c'est un système de poutrelles en relation. On peut enlever une poutrelle dans la Tour Eiffel, elle ne va pas s'effondrer. On peut enlever deux poutrelles, trois poutrelles, quatre poutrelles, etc. Et puis à partir d'un certain stade, on va enlever la mauvaise poutrelle et la Tour Eiffel va se retrouver en vrac sur le champ de Mars. Et à ce moment-là, elle a changé d'état, elle a changé de système. Et un écosystème, c'est pareil. On peut diminuer l'abondance de telle ou telle espèce. Et puis au bout d'un moment, cet écosystème, il va basculer vers un nouvel équilibre qu'on ne connaît pas, qu'on est incapable de prédire et il ne nous rendra plus les mêmes services. Par exemple, en régulation du climat, par exemple, en ressources alimentaires, etc., etc.
Bonsoir Mireille. Mireille, bonsoir.
Oui, allô.
Ouais, reprenez votre téléphone, Mireille. J'imagine bien que vous l'avez posé depuis le temps que vous attendez. Allez-y, on vous écoute.
Pour essayer d'ordonner ma pensée.
Allez-y.
Que j'avais observé. Donc, en effet, j'habite dans le Médoc, mais côté mer. Donc, là où il y a des pins et des cultures de pins. Et bien sûr, je venais juste d'écrire que la première constatation, c'est qu'après la tempête de 99, qui avait été absolument terrible ici, puisque vraiment tous les pins sont tombés, j'avais remarqué que mon petit rosier, qui donne des petites fleurs minuscules, mais en pagaille, dans mon jardin, était toujours recouvert de milliers d'insectes. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y en avait de moins en moins, jusqu'à ce qu'il y en ait, mais vraiment plus du tout, chaque année, quand il fleurit. Et en fait, il y a eu en 2004 ou 2005, à 50 mètres de la maison, il y a une parcelle avec des pins, et un tracteur est arrivé, un monsieur que j'ai vu depuis ma cuisine, qui s'est habillé en blanc, des pieds à la tête, etc., et qui, il y avait une cheminée qui sortait de ce tracteur avec une fumée blanche. Donc j'ai couru jusque là-bas pour le voir, heureusement il m'a vu, il a pris des papiers, il m'a dit écoutez, la personne à qui appartient cette parcelle de pins qui a été coupée et qui maintenant est replantée, a demandé comme dans tout, la plupart des pins, je ne savais pas de parcelles du Médoc, de ces parcelles de pins, passent du Roundup. Et du Roundup des plus costauds. Voilà. Et donc il m'a conseillé de ne plus cueillir de champignons, parce que bien sûr, à côté de la maison, il a bien vu que c'était un coin à champignons. Et alors moi, ce que je remarque, alors après bien sûr j'ai oublié ça, et il n'y a plus d'oiseaux. C'est surtout ça qui est terrible, parce que chaque année je mets des boules, des boules pour les oiseaux, et je mets deux boules. Je me suis décidé à mettre ça l'hiver, deux boules. Et il y a eu des années où deux boules ne faisaient pas la journée. Et là, cette année,
elles font la semaine.
Les deux boules, elles font quelquefois trois jours. Mais il n'y a pas non plus de vers de terre. J'ai eu des amis, enfin des voisins que j'ai rencontrés qui sont pas spécialement écolos. Moi, je suis un petit peu la dame qui aime bien les petites fleurs et les petits oiseaux, mais les autres, beaucoup moins. Et là, d'eux-mêmes, sans que je les interroge, ont été effarés en me disant, donc ils constataient aussi qu'il n'y avait plus d'oiseaux.
Mireille.
Il n'y a plus non plus d'escargots, de limaces, d'insectes.
Mireille, pardon, je vous interromps, mais si on veut répondre à vos questions, il faut vous arrêter un moment. On a bien compris ce que vous observiez chez vous, ce que vous voyez, et merci pour ce témoignage. Sébastien Moncor, quand Mireille nous parle de Roundup, en tout cas d'insecticides, est-ce qu'on connaît la part de ce genre de produits, insecticides, herbicides, etc., dans la disparition de certaines espèces? Est-ce qu'on peut dire la relation de cause à effet existe? Clairement.
Bien sûr. Et là, le dernier rapport justement qu'a publié le muséum avec le CNRS montre bien que le déclin de la biodiversité est principalement lié en fait à l'intensification de l'agriculture, à la fois qui entraîne la disparition de prairies naturelles, de jachères, de zones humides, mais surtout l'utilisation importante d'engrais et de pesticides. Et les chiffres montrent que des efforts avaient été faits sur les années précédentes, mais que malheureusement, la consommation de produits phytosanitaires en France est repartie à la hausse. Et vous savez aussi, sur le déclin des abeilles, l'utilisation des insecticides qui sont liés à cette mortalité importante qu'on rencontre aujourd'hui pour les abeilles domestiques.
Bruno David ?
Oui, ce que je voulais rajouter, c'est que Mireille nous a expliqué son sentiment, sa part d'observation, mais aussi d'impression un petit peu. Mais les chiffres qu'on a donnés, le Muséum et le CNRS, ensemble, à travers quelque chose qui s'appelle le programme STOCK, suivi temporaire des oiseaux communs, qui est un programme qui existe depuis plus de 20 ans, sont des chiffres extrêmement robustes, parce que ça fait 20 ans qu'on a exactement le même protocole scientifique d'observation, qu'on fait remonter de données grâce aux citoyens. C'est de la science participative, donc c'est l'ensemble de vos auditeurs et d'autres d'ailleurs, voire même des auditeurs d'autres radios, nous font remonter des données et on analyse ces données. Un petit peu comme l'INSEE analyse les chiffres du chômage avec des protocoles qui sont stricts. Et donc, ça nous permet d'avoir une vision scientifique extrêmement robuste de ce qui se passe, espèce par espèce, sur l'ensemble du territoire.
Et en même temps, ce que dit Mireille, ça se tient. Je veux dire, si grâce aux insecticides, à cause des insecticides et des pesticides, il n'y a plus d'insectes.
Ah, mais c'est ça.
Donc, s'il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux pour les manger, etc. etc. Et dans un périmètre extrêmement réduit, en fait, et très rapidement, apparemment, non, François Lasserre, pardon. Vous vouliez continuer, Bruno?
Non, je voulais juste insister non pas sur la causalité, mais sur la réalité des faits, la réalité de l'observation. C'est pas un phénomène local, c'est un phénomène global, et ça concerne tous les oiseaux, notamment des champs cultivés, d'où la relation avec les insecticides.
Mais ce constat sur l'implication de l'agriculture intensive, il n'est pas forcément bien accueilli non plus. Je dirais en France, c'est quand même un tabou, hein. Il faut dire ce qui est. Il y a quand même deux visions de l'agriculture qui se font face, qui se caricaturent l'une et l'autre aussi. Et donc, c'est vrai que quand vous sortez des études comme ça, vous avez aussi le monde agricole qui dit « Vous nous ostracisez, c'est pas de notre faute, on fait comme on peut et il faut bien qu'on cultive. »
Mais c'est factuel, moi, je suis désolé, nous sommes des scientifiques,
que ça crée des débats passionnels.
Il y a des observations factuelles qui plaisent ou qui ne plaisent pas. Après, le choix qu'on fait, ça devient un choix politique. Préfère-t-on vivre dans un monde ou dans une France sans oiseaux, ou dans une France avec des oiseaux, au prix de récoltes qui pousseraient éventuellement moins bien?
Alors justement, allons-y directement. Bonsoir René.
Bonsoir.
Vous êtes agriculteur René, donc vous avez forcément votre mot à dire, et on vous écoute.
Tout à fait. Donc moi je voulais, la dame qui a passé avant a un peu lancé le sujet, à savoir je voulais, comme moi je suis un agriculteur en Bretagne, donc je suis à mi-chemin entre l'agriculture biologique et conventionnelle. Je voudrais savoir, moi il y a une petite réponse, comment vous définissiez l'agriculture intensive par rapport aux dégâts qui seraient faits par les pesticides et les insecticides. Sachant que pour prolonger ma question, je voudrais quand même témoigner. Moi, je fais partie d'un groupe éco-phyto. Moi, je ne traite pas par plaisir. On est sensibilisés, nous, les agriculteurs, à tout ce qui est biodiversité. On y travaille, on s'y met. Je pense qu'il faut qu'on arrête aussi de critiquer l'agriculteur. Il n'a aucun intérêt à utiliser plus de pesticides et plus d'engrais, parce que faut savoir que tout l'engrais et tous les pesticides qu'il utilise, c'est autant d'argent qui sort de sa poche. Déjà ça, faut le savoir, et qu'on y travaille. Et nous, quand il n'y aura plus de vers de terre, plus d'oiseaux, et ça va nous poser problème, parce que qui dit plus de vers de terre, dit du mus qui est plus dégradé, et il n'y aura plus rien dans les champs. Donc on n'a aucun intérêt, et je peux rassurer aussi vos intervenants, c'est qu'on y travaille sur la biodiversité, malgré tout ce qu'on peut dire par rapport à l'agriculture intensive, notamment.
Merci beaucoup pour ce témoignage, René. François Lasserre, tiens, qu'est-ce qu'on peut répondre à René? On l'entend toujours, ce discours de la part des agriculteurs, effectivement. Au bout du compte, c'est toujours leur faute. Les pesticides, le Roundup, etc. Tout ça, c'est eux. Bah oui, mais eux aussi, c'est compliqué, visiblement.
Alors, c'est vrai qu'on a toujours tendance à stigmatiser. On est très manichéen. Il y aurait le bien, le mal, le bio qui serait bien, le conventionnel qui serait pas bien. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est quelque part entre les deux. Mais ce qu'il faut bien que votre auditeur comprenne, c'est que en face, vous avez des gens qui sont dans une espèce d'empathie et d'amour pour le vivant. Très fort, c'est très émotionnel en fait. Donc forcément, quand on entend que quelqu'un tue cette part très émotionnelle qui est en eux, eh bien ça donne des réactions assez épidermiques et assez toujours un peu violentes. Il a parfaitement raison, c'est nulle part. Et puis les pesticides et les agriculteurs, c'est un peu la cerise sur le gâteau. En fait, c'est notre occupation du monde et de la terre et des espaces depuis toujours. Mais on est tous concernés, vous, moi, les agriculteurs, un chef d'entreprise, n'importe qui. Regardez ce que vous faites dans votre jardin, sur votre balcon. Regardez comment chacun de nous, là, tous les auditeurs, regardez bien, même quelqu'un qui aime les animaux, etc. Un moustique vient sur son bras, il va le tuer comme si c'était absolument rien. Certains adorent la nature, son chat ou l'environnement, va pester contre les agriculteurs et va tuer la première araignée. Regardons bien, en fait, on est comme ça, c'est en nous, on est en train de changer. J'essaye d'être plutôt positif parce que sinon, il y a de quoi avec ces chiffres, il y a vraiment de quoi aller se jeter à l'eau. Donc, en essayant d'être positif, c'est en train de changer, mais c'est vraiment une caractéristique particulièrement de l'homme occidental qui a séparé l'homme de la nature comme s'il pouvait en disposer, vous voyez, de cette chose. C'est une espèce d'entité dont il utilise. Et c'est un rapport dominant-dominé. Mais regardons-nous tous ce qu'on fait, chacun de nous, depuis notre chambre à coucher jusqu'au fond du jardin, etc. Ce qu'on achète, on a tous un impact négatif et on n'est pas parfait.
Ce qu'on achète, évidemment, Bruno David, est-ce que le changement des modes de production est la seule manière, au final, de lutter contre l'extinction de certaines espèces, contre la fin de la biodiversité ou le retour d'une nouvelle forme de biodiversité ?
Alors, si vous me le permettez, je vais revenir aux crises anciennes et à leurs enseignements. Ces crises anciennes, quand on les regarde, on constate qu'elles ont toutes, sans exception, été multifactorielles. Il n'y a jamais eu un seul coupable. Avec mon collègue du muséum, Patrick de Vevers, on a écrit là-dessus et on aime bien prendre la comparaison avec le crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Il y a plusieurs coupables. Il y a plusieurs coups de couteau qui sont donnés. Savoir qui a donné le coup de couteau le plus long, le plus mortel, le plus blessant, c'est pas ça qui est très intéressant.
Non, mais le premier est toujours intéressant quand même, puisqu'on est dans la métaphore du polar.
Ce que je veux dire, c'est que les crises,
vous savez ce qu'on dit, c'est le premier qui coûte.
Et la crise d'aujourd'hui, elle est multifactorielle. Il y a des problèmes de pollution, il y a des problèmes de surexploitation des ressources, par exemple de surpêche, il y a des problèmes d'occupation d'espace. On goudronne et on perd la surface d'un terrain.
Donc ça veut dire qu'on a un problème de surproduction, pardon monsieur David, mais quel que soit le bout par lequel on prenne, trop de poissons, ça veut dire surpêche.
On a un problème.
On sait gérer les stocks de poissons. Par exemple, dans les mers du Nord, il y a eu des programmes de restitution des stocks, on sait le faire. On sait arrêter de bétonner, construire des villes plus verticales. Ce sont des choix politiques. Et j'ai une question à ce propos, est-ce que les politiques se sont emparés de la question de la biodiversité de la même manière qu'ils se sont visiblement emparés de celle du
Alors, je suis justement en train de travailler sur une conférence que je dois faire bientôt sur comprendre la biodiversité, où est le problème ? C'est ça la question, en fait. Hein. Et c'est quelque chose qui est effectivement plus compliqué à comprendre que le climat, parce que comme on le disait, la biodiversité, c'est un problème de relation. Il y a énormément d'informations dans l'ADN qui est contenu dans un écosystème, par exemple. Le climat, c'est plus simple à expliquer parce que c'est une question de température. On parle de la température. Le climat, on peut en avoir une approche globale à l'échelle de la planète et qu'on peut arriver à faire comprendre, qu'on peut arriver à percevoir. La biodiversité à l'échelle de la planète, qu'est-ce que ça veut dire ? On est réduit à des exemples locaux ou à des groupes. On va parler des pollinisateurs, on va parler des poissons dans l'océan, on va parler de choses comme ça. On va parler de ce qui se passe ici, à cet endroit, à un endroit précis. Mais c'est beaucoup plus difficile à faire percevoir. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Mais ceci dit, on vient d'avoir à Medellin la grande conférence qui s'appelle IPBES, pour un acronyme un peu bizarre, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. La prochaine session aura lieu l'année prochaine en France. C'est un grand succès de la France que de l'avoir obtenu. Et on progresse dans le message qu'on diffuse. Et si on a cette émission ce soir, ça en est bien la preuve aussi.
C'est vrai, mais pourquoi est-ce qu'on a cette émission ce soir ? Parce que c'est l'exemple qui marche. Vous parliez des 5 rapports de l'IPBES, comme vous dites, effectivement.
Il y a les pollinisateurs.
Il y a les pollinisateurs, il y a les oiseaux. Si on ne donne pas de l'exemple qui fonctionne, si les gens ne peuvent pas se référer à quelque chose, forcément ça ne peut
J'en
pas fonctionner.
J'en suis convaincu. Pour la biodiversité, c'est bien le sens de mon message. Je pense qu'il faut qu'on passe par le truchement d'exemples et d'exemples précis, alors que le climat, on peut se payer le luxe d'une approche globale. Juste un chiffre également, le GIEC, ça fait plus de 30 ans que ça existe. L'IPBES pour la biodiversité, son équivalent biodiversité, ça fait 6 ans que ça existe.
Et j'espère qu'on ne suit pas l'exemple du GIEC, parce qu'avant qu'on écoute les rapports du GIEC, il s'en est passé.
J'espère qu'on ira plus vite.
Il s'en est passé du temps. Bonsoir Philippe.
Ah bonsoir.
Soyez le bienvenu au téléphone sonne, Philippe.
Merci pour votre belle émission qui va au fond des choses.
Vous voyez, je suis en Dordogne, mm-hmm. et je suis au pied d'un chêne qui a mon âge à peu près, une soixantaine d'années, et puis j'ai ma forêt devant moi, et il y a des rossignols, des pics noirs, et bon voilà, je contemple à quoi ça sert la nature, à quoi servent nos insectes et nos oiseaux. Bon, aussi à ça, ça sert à se promener dans la forêt, et puis ça sert à tirer des ressources, le bois de chauffage, etc. Alors si je vous appelle ce soir, c'est parce que, en Villamblardet, là où je suis, conseiller municipal, dans cette belle Dordogne, bien, on est en train de nous transformer la forêt avec des engins très performants actuellement. C'est-à-dire qu'il y a des plans de gestion certifiés qui nous disent qu'il faut couper, exploiter, vendre, etc. C'est bien, mais on met la forêt à ras, on met la forêt à nu, on coupe à blanc. Autrefois, on laissait pousser ou on semait des graines. Et maintenant, on va convaincre le propriétaire qu'il faut pas seulement labourer, qu'il faut broyer en profondeur. Parce qu'il faut préparer la terre pour replanter bien alignée. Les fameux pins qui sont tombés chez Mireille. Mmh. Seulement, quand on va girobroyer en profondeur, parfois même jusqu'à 80 cm, on va évidemment éradiquer tout le vivant. Alors, je suis un peu entomologiste amateur depuis une cinquantaine d'années, et puis j'aime bien la pensée de Robert Guilbeault qui a créé l'OPI. Alors, quand je regarde ma forêt, j'y vois quelque chose de vivant, et quand je parcours des forêts de pins alignés, je n'y vois et je n'y entends pas grand-chose. Ce sont des déserts verts que nous fabriquons. S'il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus de larves. Ces larves dans le sol ne vont plus minéraliser le sol et dégrader ce qui va enrichir le sol. Donc il faudra faire des apports en nitrate ou autre. C'est ce que j'entends quand je rencontre des spécialistes. Ou quand je rencontre des propriétaires qui m'ont expliqué comment ils ont été convaincus de couper à blanc la forêt. Donc je crois que la disparition de nos insectes, et je le remarque moi aussi, eh bien, elle est aussi sur cette fameuse exploitation industrielle de la forêt qu'on est en train actuellement de transformer. Et donc, ma question, ce serait...
Allez-y.
Est-ce que l'État, M. Macron, M. Hulot, envisage des aides également, pas seulement pour le plan Chablis ou le plan Châtaignier des Périssants, mais des aides pour les pratiques vertueuses en matière de gestion durable et écologique de la forêt.
Et c'est
moi,
pas...
ça, j'aimerais bien savoir.
Merci beaucoup, Philippe. C'est pas la première fois qu'on pose cette question. Je crois me souvenir, Sandy, je parle sous votre contrôle, que la question avait été posée d'ailleurs lorsque Nicolas Hulot était là, l'invité du Téléphone Sonne.
Il avait d'ailleurs dit qu'il était plutôt favorable à ce...
Et qu'on réfléchissait dans mes souvenirs.
Et Nicolas Hulot, la semaine dernière, quand même, c'était devant les députés de l'Assemblée nationale qui disaient, donc il allait préparer donc un nouveau plan biodiversité, qui disait « Aidez-moi, je suis bien seul ». Et il a eu cette phrase qui était quand même assez hallucinante. Il a dit « Tout le monde s'en fiche ». À part quelques-uns.
Sébastien Moncor pour l'Union internationale pour la conservation de la nature. Effectivement, est-ce qu'il faut aider ou inciter pour qu'on puisse revenir en arrière, selon vous, et qu'on puisse se refabriquer, en fait, une biodiversité? Faut-il aider et inciter financièrement? Est-ce que ça aiderait, à votre avis?
Bien sûr, il faut mobiliser toutes les aides possibles. Compte tenu de cette situation qui est particulièrement grave, et il faut éviter justement, comme on le disait tout à l'heure, atteindre ces points de rupture où il n'est plus possible justement de retrouver une certaine biodiversité. Donc ça implique, comme le disait votre auditeur, pour la biodiversité, en fait, de savoir gérer la complexité, enfin de savoir gérer les différentes interactions entre les espèces et les milieux naturels. Et pendant très très longtemps, en fait, on a voulu avoir des modes d'exploitation de la nature très simplificateurs. En fait, on a uniformisé beaucoup, on a simplifié énormément les milieux naturels. On a eu, comme on l'a dit, des techniques d'exploitation de plus en plus intensives et de plus en plus performantes. Et du coup, on a abandonné en fait ce côté de la gestion de la complexité du vivant. Et maintenant, on a tous les retours en fait de nos impacts depuis des décennies sur l'environnement avec la pollution des eaux. Et en fait, réparer la nature et restaurer la nature, c'est parfois pas possible, ou quand ça l'est, ça coûte très cher. Donc vraiment l'option, c'est éviter au maximum de dégrader. Et on voit aussi qu'il y a des études scientifiques qui sont faites sur le fait que c'est pas parce qu'il y a plus de complexité, plus de biodiversité dans les champs, plus de haies, de bocages ou de jachère que les rendements agricoles chutent de façon vertigineuse. Il y a peut-être un peu de perte d'exploitation, mais il faut arriver aujourd'hui à concilier davantage l'utilisation, l'exploitation des milieux naturels avec le maintien d'une biodiversité.
Est-ce que l'un d'entre vous sait répondre à cette question ? On a deux questions qui disent la même chose au sujet de la campagne anti-moineaux de Mao Tse-tung. Souvenez-vous, qui était accusé d'abîmer les récoltes. Ça a duré une quarantaine d'années. Est-ce qu'on sait, Bruno David, quelle a été la conséquence de ça ou pas ? Il y a une conséquence ? Elle est tangible ?
Alors, je sais que effectivement, les Chinois ont tué tous leurs oiseaux en disant « ils nous mangent les récoltes ». Maintenant, je ne sais pas répondre à la question précise sur la conséquence de ça. Je pense que les oiseaux ont fini par revenir. Ceci dit, ils ont aussi d'autres problèmes avec les pollinisateurs et d'autres insectes qui ont disparu.
On ne sait pas si les récoltes ont été pires qu'avant, par exemple, après, ou meilleures, etc. On n'a pas ce genre de chiffres.
Tout ce que je peux dire, c'est que si on pense qu'on va pouvoir jardiner la planète pour les continents, ou la transformer en un aquarium pour les océans, c'est d'une prétention digne d'Homo sapiens. Et je pense que là, on va au-devant de très très graves désillusions. Chaque fois qu'on a essayé de manipuler un écosystème, comme le disait Sébastien Moncor, on a souvent créé des catastrophes.
Et du coup, tiens, je vous soumets la question de Laure ou Laura sur franceinter.fr. Les espèces actuelles disparaissent, mais comme pour les dinosaures, cette disparition va laisser la place à de nouvelles espèces qui pourront peut-être supporter mieux la présence de l'activité humaine. Point d'interrogation, nous dit Laura.
Je reprends ma casquette de paléontologue.
Et non, dit Sébastien Moncor.
Je reprends ma casquette de paléontologue. Le problème, c'est un problème. C'est pas un problème d'amplitude, la crise actuelle. C'est un problème de vitesse. On n'est pas encore au niveau d'amplitude des grandes crises du passé. Mais par contre, on a la biosphère a jamais été soumise à une telle vitesse de changement. Et ça, c'est ce qui est dramatique, parce qu'elle ne peut pas s'adapter ni s'acclimater à ce genre de vitesse. Je le disais un petit peu tout à l'heure, on fait disparaître des espèces alors qu'elles disparaissaient auparavant de l'ordre de plusieurs millénaires ou dizaines de milliers d'années pour qu'une espèce disparaisse. Maintenant, ça disparaît en 10 ou 100 ans. Et l'apparition d'une espèce, ça prend du temps. Donc la compensation, l'équilibre apparition-disparition ou disparition-apparition n'est plus respecté pour des questions de vitesse.
François Lasserre.
Donc, il reste peu de temps, je le vois. Il y a un gros problème de fond, vous l'avez vu, c'est philosophique. Notre culture vis-à-vis du non-humain est un peu compliquée. Et il y a aussi un problème de forme. Depuis tout à l'heure, je nous entends tous, c'est très technique. Quand on parle de biodiversité, d'espèces, d'écosystèmes, c'est extrêmement technique. Et le grand public, les gens qui n'ont pas fait bio, sont pas du tout là-dedans, comprennent absolument pas. Donc, il n'y a rien de tel. Alors, prenons un exemple concret.
Mais vous avez raison, c'est pour ça que ça marche pas, peut-être, parce que les gens savent pas de quoi on parle. Non, mais sérieusement, vivant.
Tout à fait. Quand les gens entendent les abeilles, en fait, ils pensent à l'abeille domestique. Il y a 1000 espèces. En France, il y a plus de 40. Il y a 40, 50 000 espèces.
Ça fait 40 minutes que les gens comprennent pas ce qu'on dit. Moi, ça m'inquiète un peu quand même.
Donc, ce qu'on fait à l'OPI, par exemple, ou moi avec mes bouquins, ce qu'on prend, c'est qu'on prend les gens par la main et on les emmène dehors à la rencontre de ces non-humains. Et en fait, on se rend compte au bout d'une balade. J'ai un petit compteur, par exemple, un truc très concret. J'ai un petit compteur pour compter les gens d'habitude. Et puis, je compte les individus ou parfois les espèces qu'on rencontre. Et à la fin, je demande à votre avis. Et ils sont absolument estomaqués. On a rencontré des dizaines et des dizaines d'individus et des dizaines d'espèces. Et en fait, il n'y a rien de tel qu'une bonne sensibilisation, d'emmener les gens. Et donc, c'est souvent un peu la cinquième roue du carrosse, l'éducation à l'environnement, à la nature. Et pourtant, c'est essentiel. Tous les colloques qui vous disent que tout disparaît, vous disent qu'il faudrait que les gens soient un petit peu plus sensibles. C'est ce qu'on fait, par exemple, à l'OPI.
Mais merci en tout cas de nous avoir emmenés par la main pendant ces 40 minutes. Je ne vais pas vous laisser sans vous lire deux mails. D'abord, celui de Rose, qui est en CM2, avec sa classe, nous dit-elle, je participe au Parlement des enfants. Nous faisons une proposition de loi sur la biodiversité. Nous avons particulièrement travaillé sur la disparition des oiseaux et des insectes et je me sens donc très concernée par l'émission de ce soir et j'espère qu'on a pu répondre à certaines des questions de Rose. Nous avons celle de Titouan aussi, qui n'est pas une question mais c'est pour réfléchir, l'avoir en bandoulière et partir avec, c'est pour emporter. J'ai 12 ans et je ne vous remercie pas, vous les adultes, de nous laisser la planète dans cet état. Et il a raison, Titouan, portez-vous bien.